Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et pour ces derniers matins, avant les matins d'été, on a décidé de se faire plaisir de parler de Proust, d'autant qu'il sera beaucoup question de Proust sur l'antenne de France Culture cet été. Il y a 100 ans, pratiquement 100 ans, puisque c'était le 10 décembre 1919, Marcel Proust remportait le prix Goncourt pour son livre « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». L'attribution du prix survient au cœur d'un grand deuil national et déclenche une surenchère d'invectives par voie de presse contre Marcel Proust, mondain, fortuné, trop vieux et surtout absent des champs de bataille, l'auteur est la cible d'une vague d'attaques qui, 100 ans après, trouve un tout autre écho dans votre ouvrage, Thierry Laget. Bonjour.
Bonjour.
Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire, publié chez Gallimard. Et c'est quelque chose d'assez étonnant parce que finalement, on nous a toujours appris que Marcel Proust était un auteur qui était resté méconnu, qui avait eu énormément de difficultés à être édité au début à compte d'auteur. Et puis, on le découvre aussi prix Goncourt. Comment concilier ces deux aspects de la réception de l'œuvre de Marcel Proust?
C'est que Marcel Proust a tout fait pour réussir non seulement son œuvre, mais la diffusion de son œuvre. Et après avoir, pendant quelques années, publié des petites nouvelles, des poèmes, des choses, des poèmes en prose, dans des revues, après avoir publié Les plaisirs et les jours en 1896, il s'est mis à une œuvre de très grande envergure. Il avait compris que il ne pourrait pas faire cette révolution littéraire à laquelle il songeait sans doute avec ses petits textes symbolistes, et il s'est donné les moyens de réussir dans la presse, auprès des jurys littéraires, parce qu'il pensait que c'était la seule façon de toucher le grand public qui l'intéressait.
Parce que c'était là son but, il ne se pensait pas du tout comme un romancier élitiste.
Pas du tout, il était très loin des thèses de Mallarmé par exemple. Il disait que la poésie ne devait pas être obscure, c'est ce qui rejoint ce qui s'est dit tout à l'heure sur l'apprentissage de la poésie. Il voulait vraiment qu'on le lise dans le métro, il voulait qu'on le lise dans tous les foyers, et il a réussi aujourd'hui.
Il a réussi, et on le voit dans votre ouvrage Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire, on le voit en train donc de faire face à l'hostilité, non pas du pays tout entier, mais d'une grande partie quand même des lettres françaises, tout simplement parce que celui auquel il s'oppose, c'est Roland Dorgelès. Et là, je pense, voilà, ce sont les vicissitudes de la postérité. Aujourd'hui, Dorgelès est largement moins connu et encore moins lu que Proust.
Oui, pourtant, si on avait posé la question à un lecteur des années 40, si on lui avait dit quel est le plus grand écrivain français du XXe siècle, il y en a beaucoup qui auraient répondu Roland Dorgelès. Une majorité même plaçait son livre Les Croix de Bois bien avant La Recherche du Temps Perdu. Et il y a eu une inversion des valeurs qui s'est produite dans les années 50. Roland Dorgelès était un ancien combattant, et ce que Proust n'était pas. Et il a combattu pendant toute la guerre. Il n'était pas obligé du tout d'être soldat, mais il a tenu à aller défendre son pays. Il a la croix de guerre, il a des citations, il a appris à voler en avion, son avion s'est écrasé. Enfin, c'est vraiment un héros de la guerre. Avant la guerre, il était... Il faisait des canulars, voilà. C'était un joyeux personnage qui vivait à Montmartre, la vie des peintres, des rapins, etc. Et la guerre a tout changé. Elle lui a fait découvrir le côté tragique de la condition humaine. Et il a écrit ce roman pendant la guerre, Les Croix de Bois, qui paraît au mois d'avril de 1919. Et qui a un succès phénoménal tout de suite. Le premier tirage était de 10 000 exemplaires, alors que celui de Proust était de 3 000. Donc on est à une autre échelle. Les anciens combattants, évidemment, sont ses lecteurs, sont ses amis. Et toute la presse, qui est composée en grande partie par... Enfin, les journalistes sont pour la plupart des anciens combattants, eux aussi. Toute la presse le soutient.
Peut-on lire aujourd'hui Dorgelès?
Oui, c'est un très beau roman. Il a eu... une malchance, c'est de tomber face à Proust. Enfin, des Proust, il n'y en a pas tous les ans.
Il a perdu de peu.
Il a perdu de très peu.
Il a perdu
de très peu. Et d'ailleurs, pendant très très longtemps, on a cru que c'est lui qui allait l'emporter. Mais Proust a été plus malin. Proust a manœuvré en coulisses, ce que je raconte dans mon livre. Et il a fini par l'emporter, par le coiffer sur le poteau.
Quels sont les subterfuges que Proust a utilisés pour tenter donc de l'emporter, ce qu'il a réussi à faire contre Dorgelès, Thierry Laget?
Alors c'est sans doute la position de l'outsider, le mot était employé à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de combats de boxe dans la presse, donc on voyait très bien ce que c'était qu'un outsider. Et il n'était pas en position de favori, donc il a pu manœuvrer dans l'ombre sans qu'on s'aperçoive de ce qu'il faisait. Il avait quelques amis tout de même dans le jury Goncourt. Il avait Léon Daudet, qui était un ami depuis très longtemps, le fils d'Alphonse Daudet, qu'il avait connu donc dans le salon d'Alphonse Daudet, et qui était surtout le frère de Lucien Daudet, ami très très cher de Proust, qui a été un des premiers à décréter le génie de Proust dès 1913, un des plus beaux articles qui paraissent à ce moment-là à la publication du premier volume de La Recherche du Temps Perdu, dit que Proust, c'est vraiment quelque chose de nouveau.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui, à l'époque, paraît si nouveau dans l'écriture de Proust, Thierry Laget ?
Alors, il faut se replacer dans l'époque, et ça explique aussi pourquoi le choix de l'Académie Goncourt était important. Le naturalisme, depuis des décennies, était le style romanesque dominant. Et Proust rompait avec ce réalisme en réintroduisant une dimension qui avait un peu disparu, qui était l'étude du cœur humain. C'est ce que Jacques Rivière, qui était un ami de Proust et le directeur de la Nouvelle Revue Française, a admiré chez Proust, c'est que on faisait de nouveaux progrès dans l'étude du cœur humain, on renouait avec un certain classicisme et avec une certaine complexité. Complexité de l'étude des sentiments, complexité de l'étude de la société, complexité de l'étude de la sexualité, de l'inversion des valeurs sexuelles, etc. Quelque chose de très moderne encore aujourd'hui qui intéresse beaucoup la critique.
Oui, justement, vous l'évoquez, Proust à l'époque cumulait un certain nombre d'handicaps, juifs, homosexuels, de surcroît, on le disait, fortuné, il passait pour plus vieux que son âge, vous racontez comment ses vêtements le vieillissaient, mais avant tout, et tout d'abord évidemment, l'homophobie qui dominait alors, et l'antisémitisme, Thierry Laget.
Oui, l'antisémitisme, d'ailleurs, il y a certains articles qui paraissent après qu'il a obtenu le prix Goncourt, qui sont assez clairement orientés dans cette direction-là. On dit par exemple que c'est le triomphe des flics des Rothschild. Et quand on emploie le mot Rothschild dans ce contexte-là, on voit très bien ce que l'on veut dire. On parle de son profil assyrien, quelqu'un qui l'a vu parle d'un profil assyrien. Assyrien à l'époque, ça veut dire juif, c'est rien d'autre. Donc on veut le désigner au public comme un juif, et même, il faut le dire, dans la presse de gauche, il y avait à cette époque une presse de gauche, d'extrême gauche, qui se définissait comme antisémite.
Mais alors, l'une des thématiques de l'antisémitisme à l'époque était, je crois d'ailleurs que Maurras avait une phrase là-dessus en disant qu'un juif ne pourrait jamais comprendre Racine, je ne sais plus si c'est de Maurras, mais en tout cas, l'esprit était là quand on voyait le style de Proust, Thierry Laget. Quelle était la réaction de ces milieux antisémites ?
Les milieux antisémites, curieusement, ceux de droite notamment, ont bien réagi. Parce que leur chef de file, qui était Léon Daudet, a déclaré son admiration pour l'œuvre de Proust. Proust a été un peu gêné, je dois dire, de cette admiration. Il aimait Léon Daudet, il l'aimait en tant qu'ami de très ancienne date. Mais quand Léon Daudet a publié dans l'Action française un grand article qui montrait toute l'importance de la recherche du temps perdu, en tout cas de l'homme de jeune fils en fleurs, Proust a dit dans une lettre, je suis bien sûr très content de cet article, mais il est imprimé là où d'habitude il y a écrit « mort aux juifs ». Et ça, il ne pouvait pas l'oublier, il avait été Dreyfusard, ce que tous ses adversaires avaient oublié, semble-t-il.
Pourquoi l'avait-il oublié ? Pourquoi était-ce quelque chose qui était passé ?
Il l'avait oublié parce qu'il écrit dans le Figaro. Et ça, je dois dire que André Gide, n'avait pas oublié que Proust écrivait dans le Figaro, il écrivait des pastiches, il écrivait des textes magnifiques, mais ce n'était pas du tout le support dans lequel on s'attendait à trouver de la littérature.
Mais c'est étonnant quand même, parce que aussi bien Léon Daudet, qui était très antisémite, que par exemple Ramon Fernandez, qui était aussi un autre critique littéraire extrêmement important, Dominique Fernandez, oui, lui a consacré une biographie, Ramon Fernandez, qui a fini collaborationniste, était également un très grand admirateur de Proust.
Oui, et Ramon Fernandez, en 1943, sous l'occupation, publie un livre qui déclare une admiration éperdue pour Proust, ce qui est quand même remarquable. C'est-à-dire qu'on pouvait être un collaborateur et aimer Proust, alors que certains disaient qu'il l'avait aidé à conduire la France dans l'état de déliquescence qui l'avait empêché de résister à l'invasion.
Vous écrivez, Thierry Laget, dans Proust, prix Goncourt, le livre que vous publiez chez Gallimard, qu'à l'époque, le prix Goncourt était une affaire d'éditeur, hein, c'est plus du tout. Et le cas aujourd'hui, on peut rassurer nos auditeurs à ce sujet, mais n'oublions pas, écrivez-vous, que Proust fut lui-même celui de son premier roman. Il a donc auto-édité, comme on dit aujourd'hui, du côté de chez Swann. C'est donc, en fait, avec énormément de subterfuges, une grande habileté finalement mondaine, que Proust réussit à obtenir le prix Goncourt, ce qui témoigne quand même à la fois de la connaissance du milieu des lettres qu'il avait, et puis du fait que ça n'est pas seulement un théoricien des mondanités, que c'est aussi un grand praticien.
Oui, on voudrait que ce soit un pur esprit, mais pas du tout. Il était vraiment dans son siècle. Il lisait 5, 6, 7 journaux chaque jour, très attentivement. Il connaissait exactement le rôle de tous les journalistes de l'époque. Il savait qui dirigeait quel journal. Et il a joué de cette connaissance pour s'approcher du Graal. Il a parfaitement réussi, puisqu'il a remporté le prix Goncourt. Je dois ajouter, pour cette histoire d'antisémitisme, qu'il y avait tout de même chez Léon Daudet et chez d'autres un goût de la littérature qui allait au-delà des clivages politiques ou au-delà des préjugés aussi nuisibles soient-ils. Et Léon Daudet disait, il l'a dit à propos de Céline, mais il aurait pu dire à propos de Proust, la patrie, quand il s'agit de littérature, je l'emmerde. Ce qui signifie bien que la littérature était au-dessus de tout pour lui, au-dessus même de ses idées les plus profondément ancrées.
Ce qui était d'ailleurs une valeur chez Proust, puisque il considérait comme abominable que quelqu'un puisse placer quelque chose au-dessus de la littérature.
Oui, parce que pour Proust, la vraie vie, c'est la littérature. Il l'a dit, il l'a écrit. Rien n'est au-dessus de la littérature, pas même les idées politiques.
Mais alors, comment cela se fait-il, là aussi, que cet homme, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants avec notre camarade Philippe Garbi, quand il sera question de Céleste Arbarès, ça servante, que cet homme qui était quand même profondément inadapté à une vie commune et réussi à se frayer un chemin dans le monde. Je ne parle pas de son écriture, parce qu'on a aussi des exemples d'écrivains ayant une écriture admirable, mais étant profondément inadaptés à la vie.
Ça n'a pas été simple. Il a mis du temps, il a mis longtemps, mais il avait des antennes partout. Justement, il connaissait très bien le monde, le grand monde et le petit monde. Il circulait dans Paris, dans des endroits un peu louches. Pendant la guerre, il a fréquenté le métro lors des alertes aériennes, il allait dans des hôtels de passe pour observer, disait-il, pour écrire certaines pages de son livre, peut-être aussi pour participer, mais il n'était pas cette oie blanche qu'on pourrait décrire. Il était parfaitement à l'aise dans tous les milieux, son amitié avec Céleste Albaret le prouve.
Et alors pourquoi son absence de réaction lorsqu'on lui annonce son prix Goncourt, puisque apparemment le seul mot qu'il a prononcé quand il a pris la nouvelle, ce fut « Ah !»
Oui, c'est Salah Barret qui le rapporte. Je me suis contenté de le répéter et de constater qu'en effet, c'était peut-être la phrase la plus courte qu'il avait prononcée de
tout son existence. C'est un flegmatisme.
Oui, un flegmatisme. Mais je pense que c'est surtout de l'émotion. Parce que il savait, il l'avait dit à Céleste avant d'avoir le prix, que c'était le prix le plus important pour faire connaître son œuvre. À partir du moment où il l'a eu, je crois qu'il était tellement heureux qu'il ne pouvait pas épiloguer.
Alors, la presse n'est pas aussi flegmatique et aussi brève dans les critiques qu'elle adresse à Proust. J'en cite quelques-unes. « Place aux vieux », dit l'Humanité, puisque Proust était très vieux, il avait 48 ans. « Pas une goutte, un atome de génie, rien de plus pénible, de plus essoufflé que ces plates et laborieuses inventions. » Ça, c'est dans l'éclair. Le journal des débats, lui, trouve que Proust a un talent d'outre-tombe. Charivari explique qu'il s'agit de petites coliques d'enfants. Ça n'est pas une prose consensuelle.
Non, c'est très violent, c'est très très violent. On dit que c'est un Céladon. C'est-à-dire que les critiques de l'époque étaient tellement furieux que Dorgelès n'ait pas été couronné, qu'ils ont trouvé comme moyen de le venger ces attaques très brutales. Il ne voulait absolument pas reconnaître le génie de Proust parce qu'il ne l'avait pas lu, simplement. On le voit très bien, d'ailleurs. On le voit très bien. Quand on décrit Proust comme un dilettante qui regarde, ça c'est une citation, un dilettante qui regarde son visage dans un miroir et qui, comme un jeune acnéen, fait claquer ses boutons pour voir ce qu'il y a dedans, on ne peut pas dire qu'on ait lu le texte.
Oui, on peut effectivement pas dire ça. On peut dire aussi qu'on est peut-être déconcerté par cette prose. Celle de Dorgelès était beaucoup plus classique.
C'est une prose très classique. Proust a dû imposer son style. Il n'était pas évident, sans doute, à l'époque. Évidemment, nous regardons ça avec le recul du temps. C'est peut-être très facile de se moquer de tous ces journalistes. Il n'est pas certain que nous aurions fait meilleure figure à leur place. Il bouleversait des habitudes de lecture, des habitudes romanesques, parce qu'il faut bien dire que on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, si, il se passe toute la vie, toute la richesse de la pensée, toute la richesse des émotions et des sensations, des impressions.
Alors, Proust va tomber, sinon dans l'oubli, du moins dans le désintérêt. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, ne va pas du tout arranger les choses. Il va falloir attendre quelques années, finalement, avant que Proust ne revienne, Thierry Laget, et soit évalué à la place qui est la sienne aujourd'hui.
Oui, ça se passe entre les années 50 et les années 70, avec des publications importantes, avec des témoins qui publient des correspondances, et surtout à partir des années 1970, la publication de toute la correspondance de Proust, qui montre que il a travaillé toute sa vie. Cette image de snob oisif qui, sur le tard, se met à écrire un livre génial, certes, mais tardif, oui, est complètement fausse. Il n'a cessé d'écrire, de travailler, et notre époque a apprécié, je crois, de voir que il y avait un cheminement, une résolution dès le début.
Bien sûr, aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute pour nous, Thierry Laget, mais alors pourquoi ce dandysme ?
C'était l'époque, je crois, c'était ses goûts l'y portaient, et puis il était sans doute un peu snob, oui.
Oui, c'est quand même le minimum syndical pour Proust que d'être snob.
Mais il a su montrer la poésie du snobisme, montrer ce qu'il y a de poésie dans le snobisme. Certains avant lui et après lui se sont contentés de décrire des snobs ou d'être eux-mêmes snobs. Lui est allé au-delà, il a montré ce qu'était ce désir de snobisme et il l'a relié à tous les désirs du monde.
On va continuer à évoquer Proust, tout ce que France Culture va consacrer d'ailleurs à cet écrivain cet été. Nous serons en compagnie dans quelques instants de notre camarade Philippe Garbi, qui est bien entendu producteur des Nuits de France Culture, mais qui va vous proposer aussi une grande traversée sur Céleste Albaret fin juillet. Et revoici Marcel Proust. Marcel Proust, Prix Goncourt, c'est votre ouvrage, Thierry Laget, une émeute littéraire. Il est publié chez Gallimard. Et pour parler également de Marcel Proust et plus exactement de Céleste Albarès, sa servante, mon camarade Philippe Garbi, l'homme des nuits de France Culture. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous allez nous proposer une grande traversée consacrée à Céleste Albarès, dont on va écouter d'ailleurs immédiatement un extrait.
Bonjour Céleste. Vous savez que Monsieur Proust a eu le prix Goncourt, me dit Gallimard, parce qu'on le laissait aller avant. Et alors, j'ai dit, ben je vais le voir, c'était rue Hamelin. Et je vais le voir et je dis, monsieur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, vous êtes pris Goncourt. Alors il me fit, ah, oui monsieur, vous avez eu le prix Goncourt. Et monsieur Gallimard est dans une excitation terrible. Alors je lui dis, il faut que vous les receviez, c'est absolument urgent. Oh, il me dit, je ne le recevrai pas, je ne peux pas, Céleste. Oh, mais non, oh, je lui dis, monsieur, quand même. Oh, non, 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 eh bien, dites à monsieur Gallimard que je le remercie infiniment, mais qu'il vienne vers 10h. Alors, c'était, donc, vous savez. Alors, il me dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, parce que, vous savez, il faut faire des tirages. Alors, il faut que je prenne le train ce soir, il faut que je sois rendu là-bas, il faut que ça soit si, comme ça. J'ai dit, que voulez-vous, il ne peut pas vous recevoir. Oh, mais si, pour qu'il marchera. Mais c'est une affaire contre lui-même. Il m'en débite. Alors, si vous aviez vu, je vous assure, il ne dormait pas.
Alors donc, c'est la voix de Céleste Albarès que vous allez nous proposer d'entendre en longueur dans cette fresque, cette grande traversée que vous lui avez consacrée, qui sera diffusée du 29 juillet au 2 août de 9h à 11h, évidemment disponible en podcast sur le site de France Culture. Philippe Garbi, comment avez-vous retrouvé cette voix de la servante de Marcel Proust?
Alors la voix de Céleste Albarès, on l'a à l'INA. Je me souviens d'une archive 1950 où elle reparle aussi du prix Goncourt, mais visiblement elle lit un texte. Elle a une voix de femme âgée, ce qu'elle est, mais enfin un peu moins d'ailleurs. Mais 20 ans après, quand elle est au micro de Georges Belmont, puisque ça, c'est cette grande traversée, c'est à Georges Belmont qui était un journaliste qui a fait le livre avec elle sur plusieurs mois, je crois. Il est venu l'interviewer des jours et des jours. C'est à lui que l'on doit cet entretien. Et à ce moment-là, c'est une dame qui a 20 ans de plus que dans l'archivina de 50. Elle paraît beaucoup plus jeune, simplement parce qu'on est plus en 1960, 71, mettons, un an avant la sortie du livre, mais parce qu'on est en 1913, 14, etc., jusqu'en 1922. Donc elle a une voix de jeune fille, elle imite Proust, elle imite Gide, elle imite Gaston Gallimard, elle lui imite, enfin voilà, on comprend que quand elle parle de son Proust, ou qu'elle fait parler Proust, parce que de temps en temps, on entend la voix de Marcel Proust grâce à Céleste Albarès. On l'entend parce qu'elle l'imite sans doute. Eh bien, voilà, c'est une grande traversée qui donne envie de relire Proust, de relire le livre de Céleste Albarès, et puis on comprend la vie qu'elle menait, qui est une vie extraordinaire, quoi.
Alors, en réalité, il faudrait dire, Philippe Garbi, Céleste Gineste épouse Albarès, puisqu'en fait, elle a épousé Odilon.
Voilà, bah Odilon, c'était l'un des chauffeurs de Marcel Proust, donc il pouvait être appelé à 3h du matin pour venir le chercher, pour aller on ne sait où, ou plus tôt dans la soirée chez telle et telle personne. Et puis bon, un jour il dit à Marcel Proust, elle raconte tout ça dans l'émission bien entendu, Odilon dit je vais me marier. Ah oui, tiens, bien, alors donc. Et puis c'est en Lozère, et le jour du mariage, Odilon Albarès reçoit un télégramme de Marcel Proust, il est très ému. Mais il dit à sa jeune épousée, ben voilà, je te le présenterai quand nous irons à Paris. Ils reviennent à Paris et au bout d'un mois, comme ça, il lui présente Marcel Proust. Elle est très intimidée. On est en 1913 et puis petit à petit, elle va quand même prendre sa place chez Proust pour travailler. Elle va apporter les livres, des exemplaires du côté de chez Swann qui viennent paraître.
Thierry Laget, il faut rappeler que Céleste Albarès a eu un rôle incroyable pour Proust.
Oui, elle a écrit certaines des pages de la Recherche du Temps Perdu. Non pas qu'elle les ait sorties de son encre personnelle, mais Proust les lui dictait. Elle l'a écouté raconter les soirées auxquelles il se rendait, jusque très tard dans la nuit. Elle se tenait debout au pied de son lit et il lui disait tout. Tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait pensé. Il lui aussi fait des imitations, puisque si elle s'est mise à l'imitation, c'est sans doute parce que Proust en faisait.
Il dit d'elle que c'est la seule femme qu'il aurait pu épouser.
Oui.
J'ai la citation sous les yeux.
Oui, oui, il le dit, c'est bien possible.
Bah, c'est une vie commune, en tout cas.
Oui,
mais ça, c'est vraiment une vie commune.
D'une certaine manière, il l'a épousée. D'ailleurs, entendre la voix de Céleste Albarès, c'est un peu entendre la voix de Proust. Tous les visiteurs de Proust qui croisaient Céleste Albarès, qui leur ouvraient la porte, ont dit qu'elle avait pris des tours de langage de Proust et de certaines intonations.
Et son humour aussi. Elle, perpétuellement, enfin au cours de ses entretiens, comme ça, on entend cette femme intelligente, drôle. On comprend qu'elle a pu séduire Marcel Proust, quoi, vraiment, parce qu'il n'avait pas d'a priori contre elle ni pour elle. Enfin, et soudain, il a rencontré quelqu'un qui lui a rendu des services, en effet, qui allait porter des exemplaires du livre, etc. Et puis petit à petit, bon, il y a eu la guerre. Odilon est parti à la guerre, mais très peu. Et puis Odilon, de toute façon, il disparaît des entretiens très vite, parce que l'homme de la vie, l'homme de sa vie, c'est évidemment Marcel Proust. Enfin,
et puis alors, cette femme a des jugements littéraires, alors elle n'aime pas Cocteau, elle aime Morand, bref, elle a une vision assez précise, assez personnelle de la scène littéraire, Philippe Garry.
Oui, bah elle a la vision via sans doute Marcel Proust, parce que c'est des gens qu'elle rencontre.
Vous pensez que Proust aimait Morand ?
Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, il était très, très ami de Paul Morand. Et puis il était, il avait épousé quelqu'un d'important. Alors, c'était, pour peut-être que pour Céleste, elle avait le droit d'être snob aussi, un petit peu. Enfin,
bien sûr. Proust, elle avait ce droit. Thierry Laget.
Proust a préfacé le premier recueil de nouvelles de Morand. Donc, oui, ils avaient des relations d'amitié assez privilégiées.
Elle détestait Montesquieu aussi.
En fait, il faudrait faire la liste des antisémites qui adoraient Proust.
Oui, mais peut-être Proust lui-même.
Alors donc Morand, ça en fait un de plus.
Proust lui-même, on l'a soupçonné d'un certain antisémitisme. Donc,
bon, c'était de la haine de soi.
C'était de la haine de soi, peut-être, pourquoi pas.
Voici d'autres camarades dans ce studio pour évoquer la suite d'ailleurs de Proust sur France Culture cet été, parce qu'il y aura également d'autres manières de parler de Proust. Je rappelle votre ouvrage, Thierry Laget, Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire. C'est publié chez Gallimard. Et puis donc, cette grande traversée, Philippe Garby, que vous allez nous proposer sur Céleste Albarès, qui sera diffusée du 29 juillet au 2 août, de 9h à 11h sur l'antenne de France Culture.
Et de 22h10 à minuit. N'oubliez pas.
Rediffusée. Et puis aussi en podcast, n'oubliez pas.
Ah oui. Vous avez dit que Thierry Laget avait eu le prix Céleste Albarès?
Non, je ne l'ai pas dit. Je comptais sur vous.
Bravo.
Pour le dire.
Bravo, Thierry Laget.
Vous avez mis le temps quand même, Philippe. Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, est là et je la salue avec vos invités.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
À côté, car nous avons Nicolas Martin, muni d'une moustache maintenant. C'est quand même une nouvelle qu'il faut évoquer auprès de nos amis
bonjour
auditeurs.
Bonjour
Simonetta Greggio, bonjour.
Bonjour.
Et enfin, également, Philippe Vasset, qui est là et qui va nous proposer... Ils vont nous proposer tous les trois différentes choses. Sandrine, peut-être les présenter.
Écoutez, Guillaume, je ne me lasse pas d'une phrase savoureuse, c'est le cas de le dire, qu'a prononcé Fabrice Luchini la semaine dernière au micro d'Adèle Vendrette, notre philosophe. Il parlait d'Éric Rohmer, il parlait de France Culture, et il citait Roland Barthes, paraphrasait Roland Barthes en disant « France Culture, au fond, c'est un peu de savoir et beaucoup de saveur ». Je crois que je vais vivre avec cette phrase pour longtemps, et donc cet été... du savoir et beaucoup de saveur. Mes camarades vont vous raconter ce qu'ils vous ont préparé, ce que nous pouvons dire de manière introductive, c'est dire que cet été, France Culture proposera, comme à l'accoutumée, des formats exceptionnels, des grandes traversées documentaires, des feuilletons de fiction, des séries de connaissances, un journal d'expédition scientifique, on y vient, des récits musicaux. Et ce dont il sera question, c'est de sonder les reins et les cœurs de notre époque, de ses rêves, de ses démons, de ces paradoxes, et on va le voir avec Philippe Vasset également, de ces mystères.
Alors peut-être pour en terminer avec Proust, non pas en terminer dans l'absolu, mais pour dire la totalité, être exhaustif à chaque fois que va être prononcé le nom de Proust.
Alors je sais ce que vous voulez que je dise, mais il suffisait de me le demander. outre la grande traversée dont vous avez parlé, nous diffuserons aussi les cours inédits tenus cette année au Collège de France par Antoine Compagnon, qui sont des cours qui portent sur Proust essayiste. Et ils seront tous les week-ends à l'antenne de France Culture.
D'autres grandes traversées, autrement dit ces fresques que propose France Culture l'été, et notamment celle que vous nous proposez, Simonetta Greggio, consacrée à Virginia Woolf.
Et quel plaisir, c'est à une telle joie de plonger dans cette littérature incroyablement moderne et contemporaine. Et surtout, ce qu'on a essayé de faire, Julie Berrissier et moi, la réalisatrice, c'est de retrouver la chair de Virginia. C'est-à-dire de pas voir que cette icône un peu évaporée, un peu, voilà, on a un peu fait jouer cette espèce de rôle de victime. Ça, non. Il y en a marre, ça suffit. C'est une femme formidable, c'est une femme pleine d'humour, c'est une femme pleine de vie, qui a fait des choix de vie, qui a fait des choix de mort.
Lesquels ?
Écoutez, de toute façon, elle a révolutionné réellement la littérature anglaise. C'est-à-dire qu'elle est née quand même à la fin du siècle dernier, du siècle d'avant, on va dire. et elle a redonné vie à une littérature classique, formidable, que moi j'adore, mais qui était quand même déjà vieille quand elle est née, et elle a remis en route une espèce de, le stream of consciousness, toute la partie joycienne, mais plus apaisée, j'allais dire. Et puis, je pense à quelque chose...
Justement, si vous deviez définir sa contribution au style, la manière dont celle-ci employait la langue anglaise...
L'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plonger dans l'œuvre de Virginia Woolf sans faire appel à son intelligence la plus profonde, aussi bien du cœur que de l'esprit. C'est une femme qui vous demande le mieux de vous-même quand vous la lisez, et il faut y aller parce que c'est aujourd'hui encore une espèce de littérature qui a une influence dans le contemporain. Voilà.
Et si on devait parler, parce que ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, de sa contribution au féminisme, Simonetta Greggio.
Une chambre à soi, enfin une pièce à soi plutôt, comme le dit Marie Dariussac, c'est-à-dire une femme aujourd'hui et depuis toujours a besoin de trois choses. D'une pièce où elle peut fermer la porte, d'un peu d'argent pour elle et du temps pour réfléchir et pour être libre. Voilà, donc une icône du féminisme en même temps qu'une icône de la littérature.
Oui, un texte publié il y a précisément 90 ans, en 1929, septembre 1929.
Et on retrouve votre grande traversier Virginia Woolf du 22 au 26 juillet, ça sera de 9h à 11h. Et je crois qu'il y aura une multidiffusion à 22h10, Philippe.
J'ai l'impression, oui.
C'est pas ce mais il faut l'expliquer. Il faut expliquer qu'en fait, on peut et aller à la plage et écouter France Culture. Donc à 22h15, on a pris le soleil dans la journée. On s'installe tranquillement sur la terrasse et on écoute.
Et le samedi matin, quand on prend le soleil de 11h à 12h, on peut le faire en écoutant des conversations secrètes. Le monde des espions. Philippe Vasset, de quoi s'agit-il ?
Le titre est tout à fait dit tout à fait de ce dont il retourne. En fait, c'est des conversations avec les maîtres espions de 8 pays différents, 5 démocraties et 8 régimes plus autoritaires. Et l'idée étant que aujourd'hui l'espionnage est soit abordé par la fiction, le bureau des légendes, etc., soit par le biais d'un scandale. Le Rainbow Warrior, etc. Et l'idée, c'est de faire raconter aux maîtres espions, donc les dirigeants du MI6, les dirigeants de la CIA, les dirigeants du Mossad, les dirigeants du BND, qu'est-ce que c'est que leur quotidien, comment est-ce qu'on briefe le pouvoir, et puis de raconter, de leur point de vue, le monde. Quand on est un espion britannique, c'est quoi le Brexit ?
Et alors, y a-t-il une différence entre les espions ou est-ce que les espions de tous les pays se sont...
C'est une communauté extraordinairement fracturée où on s'attache beaucoup dans chaque épisode à examiner le rapport très contrasté qu'un pays va entretenir avec l'espionnage. C'est pas du tout pareil d'être espion en Allemagne, qui a été privé de services de renseignement après la guerre, d'être espion au Royaume-Uni où c'est considéré comme une profession de seigneur, et en France où c'est une profession honteuse ou de pitre.
Et dans les autres pays, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui la place que l'espionnage occupe dans l'actualité, on a l'impression d'un retour. Est-ce que c'est simplement un effet de perspective, Philippe Vasset, ou a-t-on affaire à effectivement un regain d'intérêt pour ce métier ?
Je pense que c'est plus qu'un regain d'intérêt, c'est un regain de pouvoir en fait. Il y a quand même aujourd'hui des pays entiers où le pouvoir est tenu par les espions, la Russie étant un bon exemple. Un des témoins qu'on interroge dans l'épisode russe, par exemple, il parle d'un second âge d'or de l'espionnage. En fait, lui, il a commencé sa carrière sous le KGB. Uh-huh. Il dit aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression du même engouement pour le renseignement qu'il y a 40 ans.
On retrouve donc ces conversations secrètes que vous avez concoctées avec Pierre Gastineau. Ça sera les samedis de 11h à 12h. Sandrine, et dites-nous ce qu'il y aura par ailleurs sur l'antenne de France Culture cet été.
Non, d'abord nous allons renvoyer nos auditrices, nos auditeurs sur le site où est d'ores et déjà publiée la grille d'été. Peut-être juste un petit retour en arrière pour mentionner que nos grandes traversées commencent à partir du 15 juillet. Et que, outre Virginia Woolf, qui sera donc la deuxième grande traversée de l'été, nous commencerons avec Christine Le Cerf et Franck Lilin à la réalisation, par un Louis-Ferdinand Céline au fond de la nuit. Virginia Woolf, nous en avons parlé. Céleste, nous en avons parlé. Marcel Proust. Puis ce sera un Walt Disney et enfin un Léonard de Vinci. Et puis, vous savez, Philippe Vasset, il s'intéresse beaucoup aux espions. Il est aussi romancier et Simonetta Greggio aussi. De nouvelles voix donc à l'antenne de France Culture, venue de la littérature, et je voudrais également citer le cas d'Éric Orsenna, qui va nous offrir chaque week-end 8 aventures de la liberté à travers le personnage de Beaumarchais. Et puis d'autres voix nouvelles, Jacques Attali, avec Zoé Sfès, vont s'interroger sur le monde dans 18 ans par exemple, parce que Zoé Sfès, elle a presque 18 ans, alors...
Alors elle a la possibilité de s'interroger sur le monde. Il a 19 ans et demi, Nicolas Martin a la formule contre le réchauffement climatique. C'est un été en Antarctique que vous allez nous proposer grâce et avec l'Institut Polaire Français. Et je vous propose, Nicolas Martin, d'écouter Nicolas Martin.
On voit les premiers gros morceaux de glaçon et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, quoi. C'est sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg, mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète, quoi. Finalement, on a besoin de cette communication de gens qui trouvent ça fabuleux pour expliquer qu'il faut le préserver, quoi.
L'Antarctique par Nicolas Martin. Alors ça sera dans les matins d'été de France Culture du lundi au vendredi à 7h25 et à 13h56 également. Et puis du 1er au 12 juillet de 12h à 12h30.
Oui, voilà, il y a deux formats. Il y a un format en chronique, en récit de voyage, un peu au long cours, avec des petits modules qu'on va entendre tout au long de l'été. Et puis des épisodes d'une demi-heure qu'on a vraiment voulu comme une sorte là de récit un peu plus au long cours, où on part, parce que voilà, quelle chance de pouvoir aller en Antarctique grâce non seulement à France Culture, mais à l'Institut Polaire Français et ses équipes. Et donc, quelle envie de partager, puisque il y a peu d'élus. Et donc, ben voilà, j'essaie de vous emmener, vous rafraîchir et de passer un peu de temps auprès des manchots.
Et c'est avant tout une aventure humaine, Nicolas Martin.
C'est-à-dire que quand on part en Antarctique, on a évidemment plein d'images en tête et on se dit qu'on va être subjugué par le lieu, le paysage, la lumière. Et en fait, c'est le cas, ça. Il n'y a pas tellement de surprise là-dessus, même si c'est toujours évidemment mieux que ce qu'on a en tête. La surprise de ce voyage, c'est effectivement l'humain, parce que j'ai accompagné en fait un groupe d'hivernants, c'est-à-dire ces personnes qui ont entre 20 et 60 ans, qui viennent d'horizons sociaux, culturels, professionnels très différents. Il y a des techniciens, des mécaniciens, des cuisiniers, mais aussi évidemment des scientifiques, des ornithologues, des glaciologues. Et voilà, tout ce petit monde qui ne se connaît pas part pendant un an en Antarctique, et ils vont passer notamment 9 mois en isolement total, donc quasiment 3 mois en ce moment là de nuit polaire où il y a plus de lumière du jour. Et on est dans un système où ça crée une sorte de groupe complètement inédit, c'est des gens qui deviennent à la fois des amis, qui sont des collègues, qui deviennent de la famille, et il y a une cohésion de groupe et une aventure là-dedans qui là est une surprise totale, et c'est vraiment cette aventure-là que j'ai voulu retranscrire dans cette série de reportages qui a été réalisée par Yvon Croisier, parce que vraiment, pour le coup, c'est une situation sociale totalement inédite et très très émouvante. C'est une charge affective extrêmement puissante.
Et alors, quels sont les programmes de recherche en cours là-bas,
Nicolas
Martin ?
Il y a beaucoup d'ornithologie, vous allez beaucoup entendre de manchots. Alors malheureusement, la radio n'étant pas en odorama, vous ne les sentirez pas. Pourtant, la
ça
composante...
Ça sent quoi le manchot, Nicolas.
C'est assez désagréable, Guillaume, quand il y a plusieurs milliers d'individus et qu'il y a un petit coup de réchauffement, que la température redevient positive, d'un seul coup, il y a une sorte d'exhalaison assez puissante. Et les ornithologues l'aiment, les manchologues, ils s'appellent comme ça. Mais il y a évidemment des travaux sur le réchauffement climatique.
C'est sympathique, un manchot.
C'est adorable, c'est un peu ténueux, mais c'est très très mignon et on entend beaucoup de manchots. Vous allez entendre beaucoup de manchots, vous parlerez couramment le manchot, Guillaume, à la fin de l'été.
Eh bien écoutez, je vous dirai bonjour en manchot, Sandrine.
Oui, très peu de manchots. Très peu de manchots à l'antenne de France Culture par ailleurs.
Les intellos
par ailleurs,
sont souvent manchots,
cet été, il faudrait citer tout le travail qui a été fait par les équipes, évidemment. On ne peut pas le faire, mais peut-être mentionner que bien sûr vous aurez 40 masterclass d'artistes préparés par l'ensemble de la chaîne sous la coordination d'Arnaud Laporte et vos rendez-vous traditionnels d'actualité et d'idées. Vous allez en parler, Guillaume. Je renvoie tout le monde à la lecture du site et je remercie toutes les équipes de cette mobilisation pour cette... Ah, il y a un mot.
Et un petit mot pour dire,
dire
qu'un été en Antarctique est podcastable dès aujourd'hui, dès ce matin. Vous pouvez aller sur le site de France Culture ou sur votre application de podcast favorite, notamment celle de Radio France, bien sûr, et écouter d'ores et déjà, s'il fait un peu trop chaud aujourd'hui, les 10 épisodes d'une demi-heure d'un été en Antarctique.
Et puis je dois dire, je l'ai écouté, c'est vraiment formidable.
Merci. C'est peut-être parce que vous êtes manchot que vous ne vous rasez plus. Olivia Gesbert et Benoît Bouscarel seront aux manettes dès matin d'été, dès lundi prochain.